Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin Julie, le tout nouveau Premier ministre australien est déjà attendu au Japon pour un sommet régional.
Oui, sommet du Quad qui regroupe l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis. C'est ce groupe de puissances qui souhaite contrebalancer celle de la Chine et assurer ensemble la sécurité de la région Asie-Pacifique. Anthony Albanese, élu samedi mais qui ne sait pas encore lui-même comment sera composé son Parlement parce que tous les bulletins n'ont pas encore été dépouillés, est attendu donc d'abord sur ses promesses pour les Australiens et les Australiennes. Après 9 ans de gouvernement conservateur, il a promis en premier lieu de se battre pour le pouvoir d'achat, mais ses ambitions à l'international seront particulièrement scrutées par ses partenaires. Bonjour David Comeroe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur honoraire au CERI Sciences Po. Est-ce que la politique internationale a aussi été un enjeu de la campagne pour les législatives en Australie? Comment Anthony Albanese s'est démarqué de Scott Morrison, son prédécesseur conservateur, sur les thématiques internationales?
Alors, Scott Morrison a souhaité faire ce qu'on appelle en Australie un khaki election. Il voulait que les questions de sécurité soient prioritaires dans le débat. Or, en fait, c'est les questions surtout de pouvoir d'achat et les questions d'écologie qui ont fait basculer l'électorat avec cette victoire des travaillistes et surtout l'arrivée des candidats indépendants, surtout les femmes, une douzaine, qu'on appelle les Teal Independents, c'est-à-dire que les indépendants bleu-vert, qui ont pris les sièges des libéraux dans les quartiers les plus huppés de Sydney et de Melbourne. Donc les questions vraiment de changement climatique sont vraiment les questions sur lesquelles Anthony Albanese souhaite se faire l'avenir du pays. Il a parlé que l'Australie devient une puissance de renouvelant, superpuissance d'énergie renouvelable, et il est très ambitieux sur cette question. Et en plus, c'est ça qui est très important, il a une majorité avec ses indépendantes dans la chambre basse, mais surtout dans le Sénat. Le pouvoir, aucun des deux grands partis a une majorité, mais avec les Verts et d'autres progressistes, il a une majorité progressiste qui l'attend justement sur cette question de changement climatique et également la question de reconnaissance de ce qu'on appelle la Première Nation, c'est-à-dire le peuple aborigène.
Les aborigènes, donc ces Verts ou en tout cas ces indépendants qui viennent d'être élus et très investis face à la crise climatique, ils espèrent pouvoir bientôt à l'avenir monnayer en quelque sorte leur soutien au Parti travailliste en échange d'une politique climatique plus audacieuse, on va dire, parce que même si Anthony Albanese, le nouveau Premier ministre australien, promet, vous le venez de le dire David Cameron, de faire de l'Australie une superpuissance des énergies renouvelables, et c'est ce qu'il va notamment dire aujourd'hui devant ses alliés du Quad, puisque la question de la lutte pour le climat, l'action pour le climat sera l'un des grands enjeux de ce sommet. Il va venir dire ça, mais avec quelle vision? Est-ce qu'il a la même vision que ses partenaires? Lui, il n'a pas pour l'instant exactement dit qu'il abandonnerait les énergies fossiles.
Non, mais sur le terrain, en fait, l'Australie a tous les attributs pour être une superpuissance énergie renouvelable. Vous avez l'espace, vous avez beaucoup de soleil, vous avez la mer, vous avez le vent. Donc, déjà, l'Australie en est à 29% d'énergie renouvelable, avec une ambition qui sera atteinte facilement de 45% d'ici 2025. Donc, en fait, c'est le système capitaliste qui fait qu'on va vers les énergies renouvelables, les banques, les institutions financières, les grands fonds de pension qui sont extrêmement importants en Australie, ne souhaitent plus investir dans les énergies fossiles. Au contraire, ils souhaitent investir dans les énergies renouvelables. Donc, c'est en fait, pour les raisons économiques, le changement climatique est pris en compte en Australie.
Alors, pour l'instant, l'Australie reste le premier exportateur mondial de charbon, le troisième exportateur mondial de gaz naturel. Donc, se poser d'ores et déjà comme une superpuissance des énergies renouvelables, c'est aussi d'une certaine manière se positionner face à la Chine, qui a également dit de son côté qu'elle allait mettre tous ses investissements, mettre le paquet sur ses énergies renouvelables. Donc, la question de cette attitude qu'il faut avoir face à l'expansionnisme chinois, c'est le grand enjeu de ce sommet du Quad. Qu'est-ce que Joe Biden peut attendre d'Anthony Albanese et vice-versa? Est-ce qu'il est juste de dire que le soutien australien aux États-Unis est inconditionnel, comme le lui reproche la Chine?
Les travaillistes historiquement souhaitaient prendre un peu de distance par rapport à l'alliance avec les États-Unis. L'alliance avec les États-Unis, c'est vraiment un pilier bipartite, en fait, soutenu par les deux grands partis. L'Australie, c'est le seul pays qui a fait l'ensemble des guerres avec les États-Unis depuis 1917. Donc, cette alliance est très importante. Pourtant, auparavant, les Australiens, les travailleurs étaient plutôt plus nuancés avec la Chine. Mais depuis, Xi Jinping est arrivé et l'Australie a été punie avec les sanctions par la Chine parce qu'ils ont souhaité qu'il y ait une enquête sur les causes de Covid en Chine. Et donc, la Chine a imposé des sanctions contre un certain nombre de produits australiens, un certain nombre d'importations. Ça n'a pas eu vraiment d'impact en Australie, qui ont trouvé d'autres marchés. Et la Chine a plus besoin de l'Australie que le contraire. Donc, ça n'a pas vraiment marché. Donc, on peut attendre un discours un peu plus nuancé que c'est le cas avec Scott Morrison. Il n'est pas les mêmes amitiés, entre guillemets, de démagogues comme existait entre Scott Morrison et Donald Trump. Mais il faut dire que les Chinois sont le propre ennemi, en fait, le pire. Ils font du mal à eux-mêmes avec cette attitude, disons, de plus en plus expansionniste dans le Pacifique Sud. Donc, en fait, c'est le comportement de la Chine qui fait en sorte que le Quad va se concrétiser, se solidifier en opposition à Pékin.
Quelle place Anthony Albanese, le nouveau Premier ministre australien, veut-il occuper dans l'Indo-Pacifique? L'invité des enjeux internationaux ce matin est le chercheur Fabrice Agounès.
Et David Kamrou, la vision australienne de ce nouveau concept de l'Indo-Pacifique, est-ce qu'elle est semblable à celle qu'en ont les Américains, un Indo-Pacifique libre et ouvert, Free and Open Indo-Pacifique, qui est aussi le concept géopolitique et stratégique du Royaume-Uni?
Tout à fait, et je dirais que le concept d'Indo-Pacifique en Australie est de point de vue existentiel, entre guillemets, très important, parce que le concept d'Indo-Pacifique, contrairement au concept d'Asie-Pacifique, englobe l'ensemble de l'Australie, surtout l'Australie occidentale qui était un peu oubliée dans toutes ces autres constructions régionales. Et donc, le concept était vraiment, pour le premier, en fait, était d'abord lancé en Australie en 2013, et c'est un concept aussi qui était surtout lancé par les hommes et les femmes politiques qui viennent de Perth, c'est-à-dire de l'Australie occidentale, Stephen Smith qui était un travailliste, et Julie Bishop, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était un conservateur du Parti libéral. Et donc, ce concept est très important parce que pour la première fois, il y a un concept qui met l'Australie au centre, en fait, d'une construction régionale.
Est-ce que l'Australie en particulier a cette volonté d'encercler la Chine qui, de son côté, a fortement développé sa marine, qui a mis très récemment 25 gros bateaux à l'eau, je crois que c'était l'année dernière. Que va devenir, par exemple, ce projet de base de sous-marin nucléaire que Scott Morrison, donc le prédécesseur d'Anthony Albanese, avait annoncé début mars vouloir construire dans l'est du pays?
Je crois que les travaux sont évités pendant la campagne. Ils ont dit qu'ils sont d'accord avec le locus, mais je crois qu'ils ont demandé quand même une droit de regard, en fait une enquête, sur tous ces projets. D'un moment, Scott Morrison a promis de croire presque de 300 milliards de dollars australiens, c'était presque 200 milliards d'euros d'investissement dans les armements. Donc, il y aura sans doute, maintenant que la campagne est terminée, un débat plus serein sur, pas simplement sur les sous-marins, sur les frégates qu'on va acheter aux Britanniques et sur d'autres types d'armements. C'est surtout maintenant l'Australie se concentre de plus en plus sur le Pacifique Sud. C'est pour ça, je crois qu'on peut s'attendre qu'il y ait un réchauffement des relations avec la France, parce que l'expansionnisme chinoise, maintenant, touche le Pacifique Sud. Et vous remarquez que une des premières propositions du Quad, c'est de surveiller justement la pêche illégale, la sous-pêche. La Chine a une flotte de marine de pêcheurs conséquente, la plus grande du monde. Et ça touche la vie des gens qui habitent dans ces îles du Pacifique Sud. Et c'est surtout sur cette question-là qu'on peut s'attendre vraiment une action plus affirmée des travaillistes qui ont déjà promis une augmentation de l'aide à ces îles et également un plus grand engagement avec les pays de l'Asie du Sud-Est.
Peut-être encore un dernier petit mot pour conclure, David Camol. Depuis que le Quad a été relancé en 2017 et notamment parce que l'Australie a bien voulu revenir en disant que finalement la Chine représentait pour elle une menace alors qu'elle avait plutôt amoindri cette menace les années précédentes, deux de ses membres ont connu des changements de présidence, les États-Unis avec Joe Biden et le Japon avec Fumio Kishida, certes un gouvernement dans la continuité, mais quand même un changement à la tête de l'État. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le rapport des pays membres du Quad entre eux et avec l'arrivée de ce nouveau Premier ministre en Australie?
Bah, le fin de Donald Trump a été très, très accueilli en Australie parce que la guerre commerciale avec la Chine avait causé des séquelles aussi dans des pays voisins. Et donc, une États-Unis qui est engagée économiquement et accueilli. Avec le Japon, effectivement, on parle de JAUKUS, un AUKUS qui sera élargi à 5 avec le Japon. Et ces derniers mois, il y a eu des visites et aussi la signature des accords de coopération plus poussés avec le Japon.
Et peut-être aussi la Corée du Sud, qui ne fait pas partie du Quad, mais qui a aussi un nouveau président depuis le mois de mars, le président Yoon. Il est question qu'il s'associe au Quad sur des sujets d'intérêt commun, comme les vaccins ou les infrastructures. Merci beaucoup David Camelot d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur honoraire aux séries Sciences Po.
Merci, les enjeux c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture, l'esprit d'ouverture.